Votre grand journal de sort jusqu'à 20h, vous écoutez Mathieu Béliard.
Pour financer les baisses d'impôts, les Français vont-ils devoir travailler plus? Laissez-moi vous présenter mes invités ce soir. Henri Sterdignac, économiste à l'OFCE, membre des économistes atterrés. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être ici en direct avec nous. François Eckal, président de Fipeco, c'est une association qui anime un site internet sur les finances publiques. Ancien magistrat de la Cour des comptes, bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'être avec nous. Olivier Samin, également journaliste au service économie d'Europe 1.
Bonsoir, bonsoir
Olivier.
Mathieu.
Merci à vous trois, nous allons débattre, échanger. Alors, la réalité, il faut être précis, nos auditeurs s'expriment depuis 17h. Pour financer les baisses d'impôts, les Français vont-ils devoir travailler plus? Cela fait partie des pistes qui ont fuité du discours qu'Emmanuel Macron n'a jamais diffusé finalement. Il s'exprimera face aux journalistes dans 3 jours. Et il s'agit de travailler plus, alors au choix, on imagine revenir sur les 35 heures, supprimer un ou plusieurs jours fériés, reculer l'âge de départ à la retraite. Est-ce qu'il y a d'autres options sur la table pour travailler plus? Et quelque part, est-ce que c'est inéluctable? François Eckal.
Travailler plus, ça peut vouloir dire en effet 2 choses. On peut prendre la durée du travail annuel des actifs, donc ça renvoie à la durée hebdomadaire et au nombre de jours de fériés ou de vacances, d'un côté, et puis d'autre côté, c'est la durée du travail sur la vie, sur le cycle de vie. Et à ce moment-là, ce dont on parle, c'est essentiellement de l'âge de départ à la retraite. Donc pour ce qui est de la durée du travail et des 35 heures, le nombre de jours de congés, moi, je pense que la durée du travail, elle devrait surtout être négociée au niveau des branches et des entreprises. Bon, depuis quelques années, il y a une évolution dans ce sens. Il y a eu beaucoup de réformes qui vont dans ce sens. Dernièrement, on a incité par des mesures fiscales à faire plus d'heures supplémentaires. Je pense qu'on a peut-être intérêt à arrêter pour voir ce que ça va donner. Évaluer ces mesures, on a fait beaucoup. Donc, je ne suis pas partisan de bouger à nouveau encore les curseurs sur la durée hebdomadaire, le nombre de jours de congés, etc. En revanche, sur la durée du travail au long de la vie et donc sur l'âge de la retraite, je pense qu'il n'y a pas d'urgence, mais nous avons intérêt, plus ou moins vite, nous aurons intérêt à reculer l'âge de départ à la retraite, parce que reculer l'âge de départ à la retraite, ça veut dire plus d'actifs, et ça ne veut pas dire plus de chômeurs, sauf à court terme, ça veut dire plus d'emplois, plus de cotisants, et donc à ce moment-là, plus de recettes, à la fois pour les régimes de retraite et l'ensemble des comptes publics, et donc ça permet à la fois de réduire les déficits, et éventuellement aussi, si on recule suffisamment l'âge de départ, d'augmenter les pensions pour les retraités.
Henri Sterdignac, c'est inéluctable, travailler plus?
D'abord, il ne faut pas oublier que nous avons en France 2,5 millions de chômeurs, 1,6 millions de personnes qui travaillent à temps partiel subi, 1,5 million de chômeurs découragés. Ça nous fait une marge quand même assez importante. Il nous manque à peu près 2,5 millions d'emplois. Ça fait à peu près 10% de l'activité qu'on pourrait gagner simplement en faisant travailler des gens qui souhaitent travailler. Voilà, donc il me semble que la priorité, c'est de faire travailler ces 2,5 millions de personnes qui demandent que ça, plutôt que d'essayer désespérément de faire travailler des gens de 62 à 65 ans, dont une partie a du mal à rester dans l'entreprise, dont une partie ne réussit pas à se faire embaucher par les entreprises. Donc la priorité, c'est quand même la lutte contre le chômage.
Olivier Samin, juste d'un mot quand même pour lancer ce débat, j'aurais peut-être dû commencer par cela. Pourquoi est-ce que travailler plus, ça peut permettre de financer des baisses d'impôts?
Alors, ça peut permettre de financer des baisses d'impôts par des recettes supplémentaires que l'État engrangerait du fait de ce travail supplémentaire, par exemple de la croissance supplémentaire, du PIB supplémentaire, de la production supplémentaire créée par les personnes qui travailleraient davantage. Au passage, d'ailleurs, dans ce qui a été dit ces derniers jours par les membres de la majorité, il y avait une interview hier dans le journal du dimanche d'Aurore Berger, qui est députée LREM et porte-parole du groupe LREM à l'Assemblée. Elle dit ce travailler plus, il pourrait servir à effectivement financer la baisse des impôts, mais aussi à financer l'aide aux personnes âgées dépendantes, puisqu'on sait que c'est un grand besoin qui va nous arriver bientôt et pour lequel il y a des besoins de financement très très importants.
19h28. Europe 1. Vous restez bien sur Europe 1, le débat est lancé avec Henri Stadignac, François Hical, Olivier Samain. Alors après, c'est vrai que est-ce qu'on doit travailler plus pour financer des choses qui sont déjà voulues ou alors travailler plus en espérant pouvoir en financer d'autres par la suite. On va évoquer tout cela. Un débat qui n'est pas spécifiquement politique, même si voilà, je regardais aussi ce sondage du journal du dimanche hier, 54% des Français sont opposés à l'idée de travailler davantage. 19h28, on revient dans quelques secondes.
Vos invités Mathieu Béliard jusqu'à 20h, François Hical, président de Fipeco, une association qui anime un site internet sur les finances publiques, ancien magistrat à la Cour des comptes, Olivier Samain, journaliste au service économie à la rédaction d'Europe 1, et Henri Stadignac, économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, membre des économistes atterrés.
Henri Stadignac, ça ne s'est évidemment pas vu à la radio, mais lorsque j'ai posé la question à Olivier Samain il y a quelques minutes, vous aviez l'air de douter du fait que travailler davantage permettrait de financer une baisse des impôts.
Oui, parce qu'il faut se rappeler le précédent qui est la suppression du lundi de Pentecôte. Donc on a supprimé le lundi de Pentecôte. Enfin, on a dit aux gens, le lundi de Pentecôte, maintenant vous travaillez et l'argent que vous êtes censé gagner par ce travail, l'État le récupère par la CSA, donc une contribution de solidarité à l'autonomie. Et donc ça a été... On travaille plus pour payer justement plus d'impôts. Et donc on voit mal comment on pourrait dire que effectivement ça va permettre une baisse d'impôts. Et par ailleurs, pour la dépendance, on nous dit il nous faut 10 milliards supplémentaires. Qu'on le veuille ou non, tous les projets, c'est 10 milliards. Ça sera une hausse d'impôts qui est nécessaire. Et donc l'histoire de dire on va travailler plus pour faire baisser les impôts, on ne comprend pas très bien.
Vous dites qu'il y a un tour de passe-passe, mais qu'au final, il y aura une augmentation d'impôts.
Si on vous dit, dorénavant, on va travailler également le lundi de Pâques ou le
15 août.
Ou le 15 août, ou le 11 novembre, mais en contrepartie, ça va rapporter grosso modo 3 milliards que l'État va récupérer par un impôt supplémentaire. Pourquoi pas ?
François Hical, d'un mot, je voudrais vous faire réagir à ce que disait Henri Stadignac tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a des personnes au chômage en France.
Mais d'abord, si en effet je reprends l'exemple, ce que je disais tout à l'heure et ce que disait Henri Stadignac, si on recule l'âge de départ à la retraite, ça va faire non pas plus de chômeurs, parce que ça c'est la vision, ou à court terme, à très court terme, mais à moyen terme, ça va faire plus d'emplois. Plus de chômeurs, c'est dans une vision malthusienne où on considère qu'il y a un nombre, il y a une quantité de travail qui est donnée et on ne peut pas l'augmenter. Non, quand la population active augmente, dans tous les pays du monde, ça finit par augmenter l'emploi. Donc si l'emploi augmente, le nombre de cotisants augmente, donc les cotisations sociales augmentent. Donc oui, les impôts augmentent, mais parce que le montant des recettes publiques augmente, bien sûr. Mais ça augmente sans qu'on ait besoin de relever les taux d'imposition, les taux de cotisation. Restent les mêmes, mais le nombre de cotisants augmente. Donc il y a plus d'argent qui rentre dans les caisses.
C'est comme ça que ça marche pas. Surtout que ça
mais
marche
si,
pas comme ça. On a bien vu pendant la crise. Pendant la crise, le taux d'activité des seniors a continué à augmenter. Les entreprises ont été obligées de conserver des travailleurs de plus de 60 ans. Et en contrepartie, on a eu une très forte baisse du taux d'emploi des plus jeunes. Parce que les entreprises qui conservaient des personnels âgés, du coup, n'ont pas embauché des plus jeunes. Alors peut-être que vous avez raison à 50 ans, je n'en doute pas. Mais le problème, c'est à 50 ans. À court terme, notre problème, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes qui sont chômeurs ? Qu'est-ce qu'on fait pour les
chômeurs de longue durée ?
Pour les chômeurs de longue durée. Et ce n'est pas en mettant rapidement, comme certains le suggèrent, 1,5 million de seniors en plus sur le marché que par miracle, ils vont trouver un emploi.
François Hical ?
Je pense que si on suit la logique d'Henri Stadignac, la solution pour résoudre le problème du chômage, elle est très simple.
Il y a allez-y, parce que là les oreilles se tendent.
Très simple. Vous dites aux gens qu'ils peuvent partir à la retraite à 50 ans. Non. Vous dites à tous les immigrés de rentrer chez eux. Vous les faites rentrer chez eux, ils ne seront plus sur le marché du travail. Dites à toutes les femmes de rentrer à la maison. Parce que quand elles sont sur le marché du travail, elles prennent la place des hommes. Vous dites aux étudiants de rester, continuer leurs études. Et voilà. Et comme ça, vous avez moins de gens dans la population active et vous avez moins de chômeurs.
Et le fait mais ça ne marche des chômeurs,
pas comme ça.
Le fait
ça ne marche pas comme ça.
Je veux dire,
ça c'est vrai à très court terme, idée, à moyen long terme, c'est
idée,
complètement
elle tient
faux.
Pas, tout simplement parce que ton idée elle tient tombe. Pas tout simplement parce qu'on est dans un pays. Il faut regarder la situation. Alors, on est dans un pays où on a encore 8,6% de chômeurs.
Messieurs, on va prendre Ronan en ligne avec nous au 39-21. Il est dans le Morbihan, producteur laitier. Bonsoir Ronan.
Oui, bonsoir Mathieu.
Soyez le bienvenu.
J'écoute avec passion votre débat.
Vous avez bien raison.
Et comment dirais-je, j'ai l'impression quand même qu'on tourne en rond. Hein. Les solutions que moi je vois du fin fond de ma campagne, c'est soit on revient aux 40 heures et donc on supprime les 35 heures, qui va obligatoirement, recréer aussi de la richesse puisque les gens auront plus de revenus, hein, plus de salaires. Ou alors, on retarde l'âge de la retraite, mais comme on voit qu'il y a une levée de bouclier, eh bien, on met une pénalité à celui qui part tôt en retraite, admettons à 62 ans, on lui verse 60% de sa retraite, et à 65 ans, on lui verse la totalité de sa retraite. De toute façon, faire croire que c'est en faisant partir les gens en retraite plus tôt qu'on va créer des emplois pour les jeunes, c'est entièrement faux. Je vois le cas de la Bretagne. Je lisais un article très intéressant il y a quelques semaines sur l'employabilité en Bretagne. Il y a 142 000 chômeurs en Bretagne, il y a 138 000 emplois non pourvus. Donc si on faisait, on mettait en corrélation les emplois à pourvoir et les chômeurs par des formations adéquates, eh bien on aurait 6 000 chômeurs ou 5 000 chômeurs en Bretagne.
Olivier Samain, je vous garde en ligne, hein, Ronan, vous pouvez intervenir par la suite. Olivier
Samain. Oui, je rebondis juste sur le premier point qu'a soulevé Ronan, quand il dit qu'il faut supprimer les 35 heures pour revenir aux 39 heures. En fait, les 35 heures, il faut bien se souvenir de quoi il s'agit. Il s'agit du seuil hebdomadaire à partir duquel l'employeur vous paye en heures supplémentaires. Au-delà de 35 heures par semaine, il vous paye en heures supplémentaires.
On a le droit de travailler plus de 35
mais
heures.
Dans la réalité, pour beaucoup d'ailleurs, en France, la plupart des salariés qui travaillent à temps plein travaillent plus de 35 heures. Ils travaillent même plutôt aux alentours de 39 heures, c'est-à-dire la durée légale précédente. Au-delà de 35 heures, ils ont des heures supplémentaires majorées. Ce qui leur apporte donc un revenu plus élevé.
Vrai, Ronan,
oui,
finalement...
Vous diminuez aussi la compétitivité des entreprises en faisant ça. Si vous augmentez, les 4 ou 5 heures supplémentaires, vous les faites payer en heures supplémentaires à 25%, par exemple, hein, eh bien, vous limitez la compétitivité des entreprises. Moi, dans mon secteur d'activité, qui est l'agriculture et l'agroalimentaire, quand on voit comment travaille l'Allemagne, par exemple, et comment travaillent les Allemands, eh bien, c'est notre gros problème aujourd'hui, c'est notre manque de compétitivité.
Oui, mais Ronan
allez
expliquer aujourd'hui, mettez-vous dans le costume du président deux secondes, et allez expliquer aux Français que ces heures supplémentaires qui sont majorées, parce que beaucoup profitent des heures supplémentaires dans le cadre de leur activité, allez leur dire qu'on va enlever cette majoration en ce moment, enlever du pouvoir d'achat. Je ne suis pas sûr que ce soit perçu comme étant une bonne nouvelle.
Moi, Mathieu, personnellement, je ne suis pas un soutien d'Emmanuel Macron. Mais quel que soit le président, aujourd'hui, il est devant un mur. Et on peut changer de président, on peut dissoudre l'Assemblée, on peut faire tout ce qu'on veut. De toute façon, on est devant un mur. Il faudra bien que les gens se disent, on vit de plus en plus vieux, on ne peut pas continuer éternellement à partir plutôt que tout le monde à la retraite, travailler moins d'heures que tout le monde, avoir plus de vacances que tout le monde, plus des RTT et se dire que ce système va continuer. Moi, je ne peux pas y croire.
Il ne faut pas faire une caricature de la situation française. Les Français qui travaillent à temps plein travaillent déjà en moyenne 39 heures. On est un pays où il y a un peu moins de temps partiel que les autres. On est un pays où le temps partiel en moyenne est plus long que dans les autres pays, ce qui fait qu'en moyenne, on a une durée du travail qui est tout à fait respectable. On n'a pas plus de jours fériés que nos voisins. Et effectivement, on peut penser qu'on va progressivement reculer l'âge de la retraite, mais on va progressivement sans doute passer de 62 à 64 ans, mais ça doit se faire progressivement compte tenu de la situation du marché du travail qui actuellement, on peut dire, c'est pas le moment de prendre une grande mesure de report de l'âge de la retraite. Et je le dis, il ne faut pas nous caricaturer les Français. Il ne faut pas oublier aussi que les Français sont un des pays où la productivité du travail est la plus forte.
19h39.
Europe 1.
Vous restez bien sur Europe 1, François Ecal. Dans un instant, vous pourrez répondre à Henri Stadignac. Je remercie Ronan, qui était avec nous depuis Ploermel, dans le Morbihan. Merci Ronan, au 39-21. Vous aussi, vous intervenez si vous le souhaitez. À tout de suite.
Il est 19h40. À vos côtés, Mathieu Béliard sur Europe 1. Ce soir, Henri Stadignac, économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques et membre des économistes atterrés. Olivier Samin, journaliste au service économie d'Europe 1. Et François Ecal, président de FIPECO, une association qui anime un site internet sur les finances publiques, ancien magistrat à la Cour des comptes.
En répondant à Ronan, Henri Stadignac soulevait un point important. On travaille peut-être moins que les autres, François Ecal, mais on est plus productif en France. On devrait rester ainsi. On est bon, en fait.
Oui, enfin, on est productif. Pourquoi est-ce qu'on est plus productif ? On est plus productif essentiellement parce qu'on n'emploie pas les moins qualifiés en France. On les rejette du marché du travail. Le taux de chômage, il est particulièrement... Il n'est pas élevé pour les cadres. Le taux de chômage, il est élevé pour les emplois non qualifiés. Donc, c'est une... productif. On est très productif, mais il ne faut peut-être pas s'en féliciter, parce que c'est un peu quand même pour une mauvaise raison. Et ça, ça me renvoie à une autre chose, le taux
notre
de chômage.
Productivité, juste qu'on comprenne bien, notre hein productivité serait à revoir à la baisse si on a eu... personnel non qualifié était
bah oui,
en emploi.
Oui, c'est parce ce qu'ils ont une productivité plus faible, ils sont moins qualifiés, donc ils ont une productivité plus faible. Donc s'ils étaient en emploi, la productivité moyenne serait plus basse, en effet. Et donc... Et la raison, donc, c'est parce qu'on a un taux de chômage élevé. On a un taux de chômage qui est supérieur à celle des autres pays européens, en moyenne, alors que nous partons à la retraite à peu près 2 ans plus tôt que les autres. Donc, ceci pour rebondir sur notre débat précédent. Nous partons plus tôt à la retraite, mais nous avons quand même un taux de chômage plus élevé. Comme quoi, il n'y a pas de relation automatique entre le fait de reculer l'âge de la retraite. Les autres ont un âge de la retraite plus reculé, plus élevé, ils ont moins de chômeurs.
Serge est en ligne avec nous au 39-21 depuis la Charente-Maritime. Bonsoir Serge.
Oui, bonsoir Mathieu.
Soyez le bienvenu. Est-ce que vous êtes prêt, vous, à travailler plus, Serge ?
Alors, moi, pour tout vous dire, je suis à la retraite. J'ai bénéficié d'une carrière longue, donc je suis à la retraite, j'ai 62 ans. J'étais à la retraite à 60 ans. Mais y a une piste qui n'a jamais été explorée, qui était un nombre d'heures capitalisées sur l'ensemble de sa carrière. En gros, moi, j'ai fait 73 900 heures, en gros, hein, puisque j'ai commencé à 15 ans et demi. Et pourquoi ne pas faire un système assez simple, qui est un crédit d'heures sur l'ensemble de sa carrière, c'est-à-dire que la jeune personne qui a entre 20 et 40 ans dit « ben moi, je travaille le maximum », et puis on fait le bilan tous les ans du nombre d'heures, on capitalise ces heures, et arrivé à un certain nombre d'heures, eh bien, on connaît 61 ans, 62 ans, 63 ans, 59 ans, ce sera lié au fait qu'on a travaillé 40 heures, 45 heures, 46 heures. Et à ce moment, on règle le problème des 35 heures et on règle ce qui est invendable par le président de la République, c'est l'idée de reculer l'âge de la retraite, c'est invendable.
Alors, il y a un grand sourire autour de la table, et je vous ai entendu chuchoter François Ecal, c'est ce qui est dans les tuyaux.
Si je comprends bien ce que dit l'auditeur, en fait, ça revient à un système de retraite par points. Hein. Enfin, en tout cas, ça en est très proche. C'est ce qui existe déjà en France avec les régimes de retraite complémentaires. C'est ce que le président Macron veut mettre en place avec son système universel. Donc, j'ai peut-être mal compris, mais j'ai l'impression que ça ressemble à ça.
Non, parce que dans le système par points, on ne tient pas compte justement de la durée, on tient compte effectivement des salaires, mais on ne tient pas compte de la durée du travail. Et le risque du système par points, c'est qu'effectivement, on soit pas généreux pour les gens qui ont commencé très tôt et qui ont du mal à rester en emploi très tard. C'est le problème. Alors, la solution préconisée par monsieur est effectivement tout à fait séduisante. Le problème, c'est qu'on n'a pas, autant que je sache, de mémoire qui dit actuellement les gens qui ont 50, 60 ans, combien d'années ils ont faites. Mais il faut rappeler effectivement que les retraités, qu'aujourd'hui on a tendance à considérer comme des nantis, que monsieur Macron l'a... à ponctionner de 6% de leur retraite, de leur pouvoir d'achat, il faut rappeler quand même que les retraités, pour une partie importante, c'est des gens qui ont commencé à travailler tôt et c'est des gens qui ont travaillé 40 heures et non pas 35.
Olivier Samin.
Oui, je voudrais poser une question à Serge, justement, sur son idée, parce que je ne l'avais jamais entendu, cette idée de décompter la durée de travail
sur toute sa vie. On fait 100 heures par semaine et à 45 ans, on est à la retraite.
Voilà.
Mais est-ce que dans son idée,
ça voudrait dire qu'on aurait on devrait fournir un nombre d'heures du style, par exemple, je ne sais pas moi, 80 000 heures pendant toute sa vie professionnelle, et on pourrait moduler en fonction de ses choix de vie personnelle, si par exemple on veut faire un tour du monde, si on veut s'occuper de ses enfants, si on veut écrire un bouquin ou je ne sais quoi, on arrêterait de travailler, mais le but serait, au bout du bout, d'arriver aux 80 000 heures sur toute la vie professionnelle qu'on doit faire, c'est ça,
Serge ?
Si je peux me permettre d'intervenir, vous avez bien compris. Et on limiterait l'absentéisme parce que les personnes n'auraient qu'une obsession quelque part. C'est de dire, plus je fais d'heures de travail et plus je partirai tôt à la retraite. Et tout en ayant effectivement un capital, bon, on dit, oui, effectivement, 80 000 heures, ça me paraît quelque chose d'à peu près, c'est à peu près ce que j'avais imaginé. Et ce système n'a jamais été pensé et ça enlève toutes les barrières des 35 heures et ces fameux, cette fameuse âge de retard à la retraite. Alors, moi, j'étais très heureux de partir à 60 ans parce que c'est effectivement, j'aurais râlé, il fallait faire plus. Donc ce système-là, il ne peut qu'encourager les gens à travailler quand ils ont la forme, et puis effectivement, quand ils ont leur capital, ben c'est un placement. Et comme on place de l'argent, comme on épargne du temps de travail, et puis c'est très très simple à faire. Il n'y a pas plus simple au monde à faire.
Serge, voilà. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris la parole au 39-21. On s'est un peu éloigné, mais votre idée était intéressante puisqu'on parlait beaucoup de l'âge de départ à la retraite. Je vais juste rappeler que la question que nous posons ce soir, c'est l'idée de baisser les impôts et de financer ces baisses d'impôts. Les Français vont-ils devoir travailler plus ? On reviendra évidemment très rapidement sur la réforme des retraites qui est en préparation avec M. Delevoye. Olivier Samin, hors antenne, nous évoquions aussi dans l'interview de Robert Berger au journal du dimanche hier, le fait que le totem des 35 heures, il est un peu tombé.
Oui, parce que en fait, il y a eu les lois Aubry qui ont instauré cette durée légale à 35 heures. Et les gouvernements qui ont suivi, et notamment le gouvernement Fillon, en plusieurs étapes, est venu détricoter singulièrement les 35 heures en augmentant les contingents d'heures supplémentaires possibles, en mettant en place... D'ailleurs, ça, c'était même du temps des lois Aubry, quand on a mis en place le forfait jour pour tous les salariés, et notamment les cadres, qui ne décomptent pas leur temps de travail en heures dans la semaine ou dans le mois, mais en jours dans l'année. En fait, les cadres, ils travaillent beaucoup plus que 1607 heures par an, qui est la durée annuelle du travail si on applique les 35 heures. Ils travaillent bien plus parce que leur temps de travail est décompté en jours. Donc tout ça fait que finalement, les 35 heures modèle Aubry du début des années 2000 sont un peu oubliées. Et par ailleurs, les entreprises se sont adaptées à ce cadre-là. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, elles soient désireuses de vouloir tout chambouler à nouveau, puisqu'elles ont pu s'organiser en tenant compte de cette législation sur les 35 heures et des assouplissements qui sont intervenus par la suite.
Il faut voir que les 35 heures ont permis ou entraîné des accords d'annualisation des heures supplémentaires, du temps de travail. Et donc, les entreprises en ont profité. Il faut voir aussi que depuis, les entreprises ont développé le temps partiel, qui leur donne une très grande souplesse. Et il faut voir aussi que les gens, en moyenne, comme on l'a dit, en temps plein, travaillent 39 heures, mais en fait, ils sont payés que 36 heures. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, notamment les cadres, qui, comme on l'a dit, qui travaillent plus que les 35 heures et qu'on ne paye jamais en heures supplémentaires. Et ce n'est pas vrai aussi.
Il n'y a pas que les cadres.
Il y a beaucoup de gens dans les petites boîtes. Bon, bah, quand il faut donner un coup de collier, ils le donnent et ils ne sont pas forcément rémunérés en conséquence. Donc l'idée qu'effectivement, si on dit on supprime les 35 heures, on passe aux 39 heures, ça ne va pas augmenter de façon fabuleuse la production en France.
François Eckel, les 35 heures, c'est derrière nous.
Oui, ce que je disais au début, hein, c'est que en effet, on a quand même beaucoup modifié la réglementation. Moi, s'il fallait partir à zéro, je dirais la durée du travail, il faut qu'elle soit négociée, elle soit fixée par les entreprises ou les branches, comme c'est le cas dans beaucoup de pays. Il n'y a pas de raison que l'État se mêle de ça. Parce qu'en fait, on a réussi à faire les 35 heures et ensuite à tricoter un peu les 35 heures, mais au prix d'une réglementation affreusement compliquée qui multiplie les dérogations dans tous les sens, si bien que c'est incompréhensible, sauf par les quelques négociateurs au niveau de la branche qui négocient entre eux sur, en effet, les quotas, la durée, les heures sup, les taux de majoration d'heures sup qui sont différents d'un endroit. Donc c'est devenu affreusement compliqué. Moi, j'aurais tendance à repartir à zéro. Bon, mais je reconnais que ça a quand même été plutôt simplifié, ça a plutôt évolué dans le bon sens, et donc je dis, il faut faire une pause. Hein. Voilà, c'est pas la peine de remettre le sujet sur le tapis, faisons une pause, voyons ce qui se passe, et puis peut-être que dans quelques années, on reparlera des 35 heures.
D'ailleurs, on entend moins les partis politiques agités sous totem des 35 heures aujourd'hui. On a l'impression que, y compris à droite, c'est plus trop un sujet sur lequel ils veulent se battre, hein, j'ai l'impression.
19h50.
Europe 1.
Vous restez bien sur Europe 1 pour financer les baisses d'impôts voulues par Emmanuel Macron, voulues par les Français en tout cas. Est-ce que ces Français vont devoir travailler plus? Le débat qui continue jusqu'à 20h. À tout de suite.
Mathieu Béliard sur Europe 1 jusqu'à 20h. Vos invités, Olivier Saint-Main, journaliste du service économie à la rédaction d'Europe 1. Henri Sterdignac, économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques et membre des économistes atterrés. Et François Eckel, président de FIPECO, une association qui anime un site internet sur les finances publiques, ancien magistrat à la Cour des comptes.
Alors je suis ravi parce que depuis 19h20, nous avons réussi à passer en revue quelques-uns des témoignages qui m'ont été donnés au 39-21 depuis le début de cette émission. Les retraites, les 35 heures, les heures sup non payées aussi, on l'a évoqué. Un autre point tout de même, pour financer les baisses d'impôts, un auditeur m'a simplement dit « Je maintiens, c'est la dépense publique qu'il faut baisser plutôt que de faire travailler les Français un peu plus ». François Eckel.
Oui, je suis partisan de la réduction de la dépense publique, mais c'est pas incompatible. Hein. On peut aussi bien.
Non, mais est-ce qu'il y a besoin de faire travailler plus les Français si jamais on arrivait à faire des économies par ailleurs?
Je pense qu'on a besoin de les faire travailler plus longtemps dans le cycle de vie. Hein. Donc je pense qu'aujourd'hui, ils partent à la retraite en moyenne, les hommes, à 61 ans et demi, et en moyenne, dans l'Union européenne, c'est 63 et demi, hein, c'est 2 ans de plus. Donc je pense qu'on pourrait s'aligner sur la moyenne européenne. Donc là, oui, travailler plus tard, oui. En revanche, travailler plus dans l'année, on pourrait peut-être supprimer un jour férié, pourquoi pas, hein, je dirais. Mais je ne pense pas que ce soit la priorité. Après, c'est vrai que pour financer des dépenses, si on ne peut pas faire d'économies sur les dépenses publiques, si on veut payer moins d'impôts tout en ayant le même niveau de service public et le même niveau de prestations sociales, il faut bien qu'il y ait plus d'actifs qui travaillent plus. Hein, sauf sinon, on augmente les impôts. Ou alors, on reporte le problème dans le futur. C'est-à-dire, on emprunte et on reporte le problème à plus tard.
Henri Sterdignac.
Non, il n'est pas... c'est pas comme ça que les choses se présentent. Le but de l'économie, c'est la satisfaction des gens. Donc, c'est des choix sociaux. Les gens, je pense que les Français sont contents d'avoir des jours fériés, sont contents d'avoir des beaux week-ends au mois de mai. Ils sont contents de ça. Ils sont contents de pouvoir partir relativement tôt à la retraite, d'avoir une période où ils sont encore en pleine forme, où ils peuvent faire des activités associatives, où ils peuvent s'occuper de leurs petits-enfants. Et ils sont contents, naturellement, ça se paye. Et il faut rajouter aussi qu'ils sont contents d'avoir des retraites d'un niveau satisfaisant, parce que la France a un pays où les retraités ont le même niveau de vie que les actifs, et donc tout à fait naturellement, ça se paye par des impôts. Voilà, qu'il
donc
faut accepter avec plaisir.
Il ne faudrait pas les baisser plus que ça.
On peut décider de baisser les impôts, mais à condition de dire, on a désigné des dépenses et on se dit, ces dépenses-là, elles sont inutiles. Alors ensuite, on peut discuter, est-ce que les dépenses de santé, est-ce que les dépenses d'éducation, est-ce que les dépenses pour la famille, est-ce que les dépenses pour la dépendance, c'est effectivement utile ou pas utile par rapport aux dépenses privées? Est-ce qu'il vaut mieux payer des professeurs plutôt que des publicitaires? C'est un choix social.
Olivier Samin.
Mais je rebondis sur ce que disait François Eckel pour vous interroger, Henri Sterdignac. François Eckel disait, du coup, ce sont les générations futures qui vont payer cette charge d'un système qui peut apparaître déséquilibré aujourd'hui.
Et vous savez que le système des retraites actuellement était en équilibre, que la sécurité sociale est en équilibre et qu'on a un déficit qui est relativement faible et qui est dû simplement au fait qu'on est encore dans une période de faible activité, on a encore un taux de chômage trop élevé et que par ailleurs, la dette qu'on laisse à nos enfants, comme le dit si bien M. Eckel, est inférieure aux avoirs physiques ou financiers dont disposent les administrations. Donc, on laisse aux enfants, à nos enfants, une petite dette, mais en contrepartie, on leur laisse pas mal d'infrastructures publiques.
Les infrastructures publiques dont la valeur fond à vue d'œil. Hein, mais
on est au bout du temps.
Pas à vue d'œil.
En 20 ans, on a perdu 50 points de PIB.
C'est un autre débat, ou en tout cas, c'est un volet dans ce débat. Mais je vous remercie. Je savais que je ne vous mettrais pas d'accord, Henri Stardignac et François Eckel. Mais merci d'être venu dans ce studio ce soir. Henri Stardignac, économiste à l'OFCE, membre des économistes atterrés. François Eckel, président de Fipeco, une association animant un site internet sur les finances publiques. Ancien magistrat de la Cour des comptes, merci beaucoup. Olivier Samin, journaliste au service économie d'Europe 1. À demain, Olivier.
À demain, Mathieu.
Merci beaucoup, Olivier Samin.